Bienvenue dans Plaisir Partagé, l'émission iodée, une émission salée, une émission pêche à pied, une émission qui sent bon la marée. Vous l'avez compris, ça va être une émission particulière. Je ne laisse pas plus de suspense, bonne émission.
Danser comme une huître sous la pluie, sauter dans la rivière et rester assis. Contempler les pièces du puzzle de la vie, décrocher la falaise, être à l'aise aussi. Trouver la perle rare que l'on a enfouie, pour danser comme une huître sous la pluie.
Et oui, vous l'avez compris, le thème de cette émission, ce sont les...
huîtres.
Bravo. Et pour faire ça, nous avons invité autour de la table une spécialiste du mollusque qui nous vient tout droit du bassin d'Arcachon. Elle a grandi les pieds dans la vase, son doudou était une coquille d'huître. Jeanne, merci d'être là.
Bonsoir.
Voilà, on t'entend. Nous avons également autour de la table Lucie qui va nous raconter son rapport au monde ostréicole. Merci Lucie d'être
oui,
là.
Oui, un très très bon rapport. Sans aucun doute.
Il y a mes deux comparses habituels de plaisir partagé. Lucas qui est là pour donner son avis sur les huîtres.
Salut.
Et Louise qui est là également derrière le studio mobile.
Bonsoir.
Salut Louise. On est à la Poule à Facettes. Merci à la Poule à Facettes de nous accueillir pour la soirée huître. Vous allez connaître tout ce qui se passe autour de l'huître. Merci Jeanne d'être venue nous voir depuis le bassin d'Arcachon, on peut le dire.
Pas du tout. Moi, j'habite à Oust.
Larna.
Mais j'ai passé 4 ans là-bas, effectivement, à parler beaucoup d'huîtres.
Ah, mais c'est exactement ça qu'on veut, quelqu'un local qui connaît le bassin d'Arcachon, qui connaît l'huître par cœur. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Jeanne, avec les explications de qu'est-ce que c'est une huître.
Que ce n'est pas.
Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas. Merci, Lucas.
Ouais, qu'est-ce que ce n'est pas. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est. C'est un mollusque bivalve. Donc, un mollusque, c'est un animal qui a un corps mou. Et bivalve, ça veut dire que sa coquille est en deux parties, deux valves.
Effectivement.
Voilà. Et il y a plusieurs dizaines d'espèces d'huîtres. Celles qu'on mange, il y a deux espèces en particulier. Donc, il y a Malagana gigas, qui est l'huître creuse, ou huître japonaise, c'est celle qu'on va avoir ce soir. Et il y a aussi les huîtres plates, qu'on appelle aussi la gravette ou le belon.
Et Malagana giga, c'est celle que tu as dessinée, parce qu'il y a un superbe dessin que tu as fait avec les explications, enfin déjà une superbe huître, je ne sais pas si tout le monde l'a vu.
Ouais. Si, très beau.
Très belle.
J'avais un croquis finalement.
Sur mes notes, Magalana gigas, parce qu'on m'a dit qu'elles avaient vraiment remplacé l'huître européenne, c'est la huître japonaise qui est venue, parce qu'elle est plus grosse et plus charnue.
Bah, c'est surtout qu'il y a eu plusieurs épizooties, donc des épidémies sur les animaux qui ont effectivement terrassé les huîtres qu'on avait en Europe. Donc c'est l'huître plate, la gravette ou le belon, qu'on peut toujours trouver. C'est celle qui est originaire d'Europe. Qu'on peut trouver toujours un petit peu, mais après celle-là, il y a eu l'huître portugaise, et celle-là, elle a été dessinée complètement, et on a ramené l'huître japonaise pour la remplacer, effectivement.
Donc Jeanne, première question dédiée à la coquille, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde une huître?
Alors, quand on a l'huître fermée, on voit plein de choses qui ne sont pas forcément l'huître, parce que la coquille, c'est un milieu où il y a plein de petites algues, des petits vers, des petits crustacés, tout ça qui se loge à l'intérieur sur la coquille. Et quand on l'ouvre, quand on va justement séparer les deux parties de la coquille, on va voir l'animal en lui-même. Et là, bah, y a plein de choses qu'on a. On peut repérer, si vous en avez déjà sous les yeux ou pas encore tout mangé, on peut repérer cette partie un peu ronde, blanchâtre, qui est le pied de l'huître, le muscle de l'huître, qui va lui servir à fermer fortement les deux parties de la coquille pour rester hermétique quand c'est la marée basse. Et puis, dans le reste de l'huître, il y a toutes les viscères et une grande partie qui est occupée par les branchies, qui lui permet à la fois de respirer, donc de capter l'oxygène qui est dans l'eau, et à la fois de s'alimenter. Donc ça va servir de filtre, en fait, à filtrer l'eau. Et à manger le phytoplancton.
Wow. Comme les baleines.
Les baleines, c'est plus le zooplancton.
Ah,
ouais. Mais c'est du plancton quand même. Mais donc, il y a le plancton animal et le plancton végétal. L'huître, elle mange vraiment le plancton végétal.
Elle est végétarienne.
Voilà.
Et tu as parlé du pied, je reviens tout de suite à une question que tout le monde se pose. Est-ce que le pied se mange? Et est-ce que, selon les spécialistes, c'est la meilleure partie de l'huître? Est-ce que tu confirmes?
Alors moi, j'ai même tendance à dire, quand on n'aime pas les huîtres, commencer par goûter juste le pied. C'est une partie qui est beaucoup plus ferme, qui est, bah, parce que c'est le muscle, hein, c'est un muscle adducteur puissant, et c'est un petit goût de noisette très simple, sucré, c'est un goût sucré, vraiment. Donc moi, je conseille vivement de ne pas le laisser au fond de la coquille.
C'est bien noté. L'huître, ça vit où, Jeanne ?
Alors les huîtres, il y a plusieurs dizaines d'espèces d'huîtres, mais les huîtres sont des mollusques principalement marins, qui vivent aussi dans les eaux un peu saumâtres, donc c'est-à-dire moins salées, qui sont mélangées avec de l'eau douce donc aux estuaires. Et il leur faut justement de l'eau pas trop salée pour se reproduire. Donc en fait, on en trouve dans toutes les mers du monde.
Ok, est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Alors, il y a beaucoup, donc quelques dizaines d'espèces. Ça fait pas mal d'espèces différentes. Et dans l'ostréiculture, donc l'élevage des huîtres, on a, les derniers chiffres que j'ai trouvés, 80 910 tonnes d'huîtres produites par an pour 2024. Donc, bah ouais, c'est pas mal quand même.
Mais on compte la coquille avec ou juste...
Avec la coquille, je pense quand même. Ouais. Les tonnages avec coquille. Et moi, ce qui fait que la France est un des premiers pays producteurs d'huîtres.
Moi, j'ai une question par rapport à la coquille. C'est elle qui crée sa coquille ou est-ce qu'elle la trouve ?
Elle va la créer au fur et à mesure. En fait, au début, l'huître, elle est toute petite, à peine plus grosse qu'une tête d'épingle. C'est ce qu'on appelle le naissin. Ouais. C'est là où elle se fixe sur un support rocheux ou sur d'autres supports, mais un support dur en tout cas. Et en fait, au fur et à mesure, elle va construire sa coquille. Ce que vous avez, quand vous ouvrez l'huître, les petites choses noires que vous avez qui sont vraiment autour, c'est la bordure du manteau et c'est grâce au manteau qu'elle va construire sa coquille. Donc c'est du carbonate de calcium qu'elle trouve dans l'eau et qu'elle agglomère au fur et à mesure pour construire sa coquille.
Et qu'en est-il des perles ?
Alors les perles, les huîtres qu'on mange chez nous, on peut trouver des toutes petites perles. En fait, ça va être un petit grain de sable ou une impureté qui est rentrée dans l'huître et qu'elle n'arrive pas à expulser. Et donc elle va créer de la coquille autour de cette particule-là pour pas que ça la blesse. Donc on peut trouver des toutes petites perles, comme un petit caillou, quoi. Mais les perles, les huîtres, les perles qu'on a dans la bijouterie, tout ça, c'est des huîtres spécifiques, des huîtres perlières. Et là, pour avoir de la nacre, tout ça, il faut des eaux plus chaudes, donc c'est souvent tropical. On a les perles de Tahiti, tout ça. Et alors là, c'est... Il y a des histoires de greffe, de mettre des nucléus pour qu'elles recouvrent juste, que ce soit la partie extérieure qui soit que de la nacre. Et ça fait des perles beaucoup moins chères, parce qu'au début, on avait des perles complètement de nacre qui étaient très très chères, qui sont toujours très très chères d'ailleurs, parce que ça a besoin de très longtemps pour se faire former.
Et du coup, il y a des élevages d'huîtres perlières qui ne sont pas mangées.
C'est ça, je ne sais même pas si c'est comestible, mais bon, c'est tellement cher les perles que ça ne vaut pas le coup.
Et dernière question, pourquoi 13 à la douzaine ?
Oh, j'ai la réponse.
Allez, je te laisse.
Le bon élève, quoi. Vas-y,
je te laisse.
Mais peut-être que ce n'est pas la bonne réponse, comme souvent dans mes réponses. C'est qu'avant, on comptait sur ses doigts comme ça, mais ce n'est pas très radiophonique. Et du coup, avec le pouce, on comptait sur les phalanges des autres doigts, et du coup, ça fait 3 fois... 4, 12, et du coup, on ne peut pas compter au-dessus de 12.
C'est
pareil
ça.
Pour les œufs.
Donc, ça, c'est le système qui permettait de compter, donc soit par 6, soit par 12. En fait, on utilisait le pouce de la main pour pouvoir compter
les phalanges.
Et donc, les phalanges, donc on savait où on en était, 1, 2, 3, 4, 5, enfin, 3 par doigt, quoi, donc 3 fois 4, 12. Et donc, ça, c'est le système douzaine, enfin, demi-douzaine, douzaine, qu'on a gardé pour les huîtres, pour les œufs, etc. Et 13 à la douzaine, parce que c'est un terme un peu... c'est les ostréiculteurs qui mettent une huître en rab, en gros, parce qu'il peut toujours y avoir une mauvaise huître ou une qui, dans le transport, meurt, tout ça. Donc, voilà, c'est pour être sûr que ça se voit de moins en moins.
Merci infiniment, Jeanne, pour toutes ces informations. Tu restes avec nous pour apporter toute information au fil de l'émission, bien sûr. Alors, comme tu sais, l'émission Iodé a fait beaucoup réagir sur les réseaux et nous avons reçu beaucoup de courriers. En effet, certains en ont plus qu'assez de cette tendance huître. Certains s'offusquent que l'huître prenne toute la place dans les médias. Et c'est encore plus vrai au moment des fêtes. Nous avons décidé de donner la parole à ses détracteurs. C'est parti.
Je m'apprête à toquer à la porte de Pierre Barry, qui est chercheur dans la discipline des bigorneaux. Il a décidé de nous contacter pour amener un petit peu de contradiction à cette émission qui se base essentiellement sur l'huître.
Oui, bonjour. Et rentrez, Entrez, entrez.
Merci, bonjour, Pierre-Marie, c'est ça?
Oui, c'est moi, enchanté.
Donc, Pierre, vous êtes chercheur, c'est bien ça?
Oui, exactement, je suis chercheur sur les bigorneaux.
Donc, votre métier est d'étudier les bigorneaux?
C'est ça, c'est ma passion.
Ça consiste en quoi, d'étudier les bigorneaux au quotidien?
Eh ben, c'est simple, on se balade, on va à côté de la mer, on va sur les rochers, et puis on regarde les bigorneaux. C'est beau, les bigorneaux.
Comment ça se reproduit, un bigorneau?
Alors, les bigorneaux, c'est très simple. Il faut s'imaginer que les bigorneaux, c'est pas comme les petits escargots qu'on voit dans les mers, à morphodrite, tout ça. Bigorneaux, il y a les mâles bigorneaux et les femelles bigorneaux. Et en fait, le mâle bigorneau va monter sur la coquille de la bigorneau femelle, et le mâle va insérer son pénis de bigorneau dans le vagin de la bigorneau femelle.
Ça ressemble à quoi précisément, un pénis de bigorneau et un vagin de bigorneau?
Eh ben un peu comme nous, sauf que le bigorneau mâle a son pénis derrière l'œil droit.
Un pénis derrière l'oreille ou un vagin? Vagin derrière l'oreille gauche, pénis derrière l'oreille droite, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Du coup, le bigorneau mâle met son côté droit où il y a le pénis du côté gauche de la femelle lors de l'accouplement.
Et ça forme un petit cœur de bigorneau.
C'est ça, ça forme un petit cœur. Encore une fois, faut s'imaginer pour les auditeurs et les auditrices, mais lorsque vous vous baladez un petit peu sur la côte, vous voyez des bigorneaux qui sont tête contre tête, on voit que la coquille, ça forme un petit V ou un petit cœur.
J'ai ouï dire qu'il existait un groupe secret de chercheurs-chercheuses de bigorneaux qui s'appelait Sexy Snails. Est-ce que c'est une true story?
Alors, pour des raisons purement de secret défense, je ne pourrais pas répondre exactement oui à cette question, mais il se trouve que...
Que ça existe, oui ou non?
Oui, ça existe.
À force de voir et de parler de bigorneaux tous les jours, j'imagine que tu t'es attaché à ces petits coquillages.
Oui, j'adore les bigorneaux.
Et est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ta chose préférée chez les bigorneaux? Qu'est-ce qui te fait craquer?
Ah bah il y a plein de choses. Alors si je voulais faire un petit trait d'humour, je dirais que ce qui me fait craquer, c'est leur coquille. Mais moi ce que j'aime beaucoup, vous savez, c'est les yeux de littorine, de bigorneau. C'est magnifique. C'est vraiment, ça contient vraiment tout l'amour et toute la terre dans ses petits yeux. Faut vraiment voir. J'invite tout le monde à soit aller voir sur internet, soit aller voir de vos propres yeux, des yeux de littorine. Mais c'est vraiment des petites billes noires. Franchement,
ça vous fait fondre, quoi.
Ah, ça me fait fondre, ça me fait fondre. J'ai pas de mots pour ça, mais c'est très très mignon. Et si je peux rajouter quelque chose, on risque d'être un peu provocateur. À ce niveau-là, les bigorneaux sont bien mieux que les huîtres. Mais sans chercher la polémique, bien sûr.
C'est une parole qui va faire grand débat aujourd'hui à la fête de l'huître.
Je vous laisse responsable de vos propos. Je m'en rends compte.
Mais on peut pas dire des choses comme ça sans les étayer. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu. D'après vous, hein, puisque ce n'est que vous que ça engage, qu'est-ce qui fait qu'un bigorneau a des avantages non négligeables sur l'huître?
Alors, je suis spécialiste des bigorneaux, je ne suis pas spécialiste des huîtres. Je tiens à dire ça. Mais je pense quand même qu'un bigorneau est meilleur qu'une huître, déjà par son côté mignon. C'est beaucoup plus, pour nous en tant qu'être humain, voir une tête de bigorneau, ça nous rapproche plus qu'une huître. Une huître, il y a quoi? On ne sait pas trop. Un muscle, voilà. Bon, voilà. C'est tout, hein.
Est-ce que, entre spécialistes des bigorneaux, vous vous échangez des bonnes blagues sur ces petits animaux mignons?
Alors, oui, évidemment. On est des scientifiques, mais on est quand même des hommes et des femmes avant tout. Et c'est vrai qu'après une bonne journée de travail, on aime bien quand même se partager des bons mots, si je puis dire. Évidemment.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous faire part d'une de ces blagues?
Là, vous me prenez un peu dépourvu. Si, j'en ai une. Pourquoi dit-on que les éleveurs de bigorneaux sont libidineux? Parce que ce sont des bigorniculteurs. Bigorniculteurs. C'est pas mal. Ça marche à l'international en plus. Donc voilà. C'est de l'humour de bigorniculteurs. Hein.
Aïe, aïe, aïe. Un battle qui rappelle les plus grands clashs de la côte atlantique. Une émission spéciale 8 qui tourne mal entre d'un côté Notorious Bigorneau et de l'autre Tupac d'huître. Le jury va devoir trancher entre nos deux spécialistes. Attention, jingle.
Notorious bigorneau.
Et oui, un battle au sommet, une seule place pour être le coquillage le plus stylé de la coque atlantique. Alors je vais demander au jury de délibérer. Lucas, où va ton vote ?
J'ai regardé à l'instant une photo de Bigorneau, voir à quoi ça ressemblait, c'est vrai que c'est hyper mignon.
Ah, donc plutôt Bigorneau.
Oui, j'imagine.
Lucie ?
Ouais, bah, je suis biaisée, j'ai participé à cette interview et vraiment j'ai été convaincue. Il se trouve qu'ils n'ont pas de trucs comme les escargots, là, des petites antennes, ils ont juste les yeux. C'est extrêmement étrange et perturbant, mais c'est vrai que ça fait quelque chose.
Et en plus,
ils se déplacent, et tout, ils font des trucs, ils peuvent se lover au creux de nos bras, j'imagine, plus qu'une huître.
Ça fait 2 votes pour le Bigorneau. Louise ?
Moi, Team Bigorneau.
Team Bigorneau, aïe aïe aïe, Jeanne, que dis-je, Jeanne, Tupac d'huître. Comment, peut-être un dernier mot pour te défendre ?
Ben moi, je suis team huître parce que c'est une espèce ingénieure qui fabrique un milieu bien particulier et qui filtre l'eau, qui nettoie l'eau, qui est support de biodiversité. Team huître.
Et ben écoute,
et toi, Yann, tu nous as pas dit.
Moi, je vais rejoindre la team huître juste pour pas créer la polémique ce soir.
Mais c'est vrai qu'après tous ces arguments, moi aussi, je veux bien rejoindre la team huître.
Ah, bravo Lucas, welcome. Et peut-être un petit mot de la fin de la part de notre spécialiste Bigorneau.
Ben, c'était un plaisir et surtout passer une bonne fête de l'huître parce que quand même on aime bien se chicaner entre les gens qui travaillent sur les bigorneaux et sur les huîtres, mais au final on est quand même une seule grande famille, donc profitez bien des huîtres et à la prochaine.
Et merci Pierre, il est bien sympathique cet expert bigorneau, donc sans rancune Jeanne.
Aucune.
Bon, ben, très bien, tout ça est une grande famille.
Une sainte guerre.
Eh bien, on va pouvoir passer, je crois, au grand débat du jour. Mais peut-être avant, Lucas, est-ce que je peux te charger de trouver quelqu'un dans le public qui aurait envie de participer à ce débat en tout consentement, bien sûr.
C'est très important, un débat sur l'huître.
Ah bah tiens, regarde-les.
Ah, viens. Ah, on a un débatteur. On a deux débatteurs peut-être. Ils ont un plateau d'huîtres et des verres de vin blanc. Ils sont armés, ils sont là.
Bonsoir.
Comment tu t'appelles ?
Alors, moi, c'est Arnaud. Grand fanatique de l'huître et très content d'être là.
Excellent, donc Arnaud, grand fanatique de l'huître, tu vas pouvoir défendre l'huître parmi cette petite assemblée qui a défendu trop expressément le bigorneau. Eh bien, on va pouvoir démarrer le débat.
Ah bah.
C'est à toi, Lucie, je te lance le petit jingle.
Yann, c'est maintenant l'heure d'aborder le sujet qui divise les mangeurs et les mangeuses d'huîtres. La question qui, personnellement, en tant que non-amoureuse d'huîtres, me fait le même effet que de devoir voter au second tour des présidentielles. J'ai nommé la question « huîtres crues ou huîtres chaudes ?» Car oui, les amateuristes d'huîtres, non contents de faire glisser une matière visqueuse et remuante dans leur gosier, ont également développé une myriade de façons de cuisiner l'huître. Sur le Journal des Femmes, référence bien connue de l'Internet, on peut trouver des recettes comme l'huître vapeur aux champignons ou l'huître gratinée au roquefort et au champagne, la brochette d'huître au barbecue ou encore les huîtres en gelée, le ragoût d'huître et la fameuse recette états-unienne qu'on m'a rapportée, le gratin d'huître au ketchup. Alors, vous, autour de la table, qu'en pensez-vous ? Pour ou contre l'huître chaude ?
Arnaud, je crois qu'on te laisse directement la parole en tant qu'invité.
C'est très gentil. Malheureusement, je n'ai jamais goûté l'huître chaude. Je reste un puriste, mais sans avoir goûté le reste. Alors, je reste ouvert, mais ça me paraît un petit peu bizarre.
Voilà, tu as envie d'y aller quand même ou pas du tout ?
Je dois avouer que ça ne me tente pas des masses, mais je suis quelqu'un de curieux. J'ai envie de me laisser tenter quand même.
Et parmi tous ces repas, c'est lequel qui te fait le plus envie, là ? De toutes les huîtres, gratin d'huîtres, huîtres marinées, raclette à l'huître.
Quitte à aller chercher l'originalité, j'irai sur les huîtres gratinées au ketchup, je pense.
Ah ouais.
Gourmet.
Mais est-ce que quelqu'un autour de la table ici a déjà mangé des huîtres chaudes ? Ah bah oui, bien évidemment.
J'ai l'impression que la spécialiste de l'huître va pouvoir nous répondre. Ah.
Attention, une intervention du public.
Bonsoir. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui adorait les huîtres, qui allait pratiquement tous les week-ends à la halle de Grenoble chercher des belons, qui sont des huîtres rondes, un peu sucrées. et des vertes de clair, qui sont souvent trois catégories, petite, moyenne, grande et tout. Ils nous amenaient ça à la maison, ils nous ouvraient et puis on dégustait. Et moi, je me suis jamais demandé si c'était visqueux ou je sais pas ce que vous avez dit. On se régalait. Enfin, je veux dire, alors, la chose qui me gênait le plus, parce que quand j'étais petite, je m'en rendais pas compte, mais après, j'ai su qu'on les mangeait vivantes. Sauf que dès qu'on les met dans la bouche ou même dès qu'on les ouvre, elles meurent. Donc on les mange pas vraiment vivantes. Je crois que c'est les gens qui aiment pas les huîtres qui disent ça.
Fact-checking, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'elles meurent dès qu'on les mange?
Non. Et en fait, quand on les mange crues, il faut même bien vérifier qu'elles soient vivantes parce que ça, sinon on risque de d'avoir des problèmes après d'intoxication. Donc il faut qu'elles soient bien vivantes. C'est pour ça que en rajoutant un peu de citron ou en touchant le bord du manteau, donc la partie un peu mouchetée noire sur le côté, quand elle se rétracte, on vérifie qu'elle est bien vivante. Donc on la mange vraiment vivante et c'est d'ailleurs, avec les graines germées, un des seuls aliments qu'on mange vivant et c'est très bon pour la santé.
En termes d'expérience d'huîtres chaudes, toi Jeanne, tu as quelle expérience ?
Alors moi j'ai eu la chance de goûter des huîtres chaudes sur le bassin d'Arcachon au lycée hôtelier, donc les élèves qui préparaient des huîtres chaudes, qui apprenaient à être cuistots. C'était gratiné avec un peu de persillade et du fromage, je crois, enfin délicieux. Et très récemment, justement, en me disant non, mais quand même, il faudrait que je regoute parce que c'était il y a longtemps, j'ai essayé de les passer au four comme ça, fermées, passer au four juste le temps qu'elles s'ouvrent en fait. Et je me suis dit que je ne referais pas. Parce que je pense que je les ai trop fait cuire et c'était un peu caoutchouteux. Par contre, le goût était très bon. Ça devenait beaucoup plus sucré. Mais gratiné, là, fait par des gens qui savent faire, délicieux.
Mais moi, je me pose la question, ça devient quoi comme texture une fois que c'est gratiné ou en brochette au barbecue, quoi ?
Ouais, alors, brochette au barbecue, je pense qu'on retrouve ce côté un peu gélatineux. Enfin, pas gélatineux, caoutchouteux, pardon. Enfin, quand c'est très cuit. Comme d'autres mollusques, en fait. Je sais pas, un bulot, ou quand c'est trop cuit, c'est vraiment coriace. Mais par contre gratiner juste un petit coup, en fait c'est pour ça qu'on dit chaude, c'est parce qu'il faut très peu les cuire, je pense. Et là pour le coup oui, ça les tue. Et pour ceux qui sont un peu qui ont pas envie de manger les choses vivantes, ça peut être une solution.
Alors je dois dire que j'ai quand même j'étais pas du tout team huître chaude. J'ai goûté un jour les huîtres gratinées, je dois dire que j'ai été convaincu instantanément. C'est-à-dire que c'est plutôt bon. C'est même plutôt une bonne surprise. Donc Arnaud, voilà, au début, j'étais comme toi. J'y suis allé à reculons. Et puis, je me suis laissé attraper par ce petit goût un peu croustillant qu'on peut retrouver sur le gratin dauphinois, par exemple. Voilà, ça m'a rappelé un peu ça. Et je dois dire que maintenant, je suis plus partagé. Je reste dans la team huître en bord de bassin, les pieds dans l'eau. Mais de temps en temps, sorti du four, je peux me laisser convaincre.
D'ailleurs, c'est comme ça que la plupart des ostréiculteurs que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était le mieux pour les manger, c'est-à-dire nature.
Les puristes. J'ai un petit complément d'information sur le gratin d'huître au ketchup. Je vous invite à regarder des vidéos de youtubeurs de la cuisine. En fait, les Américains, ils ont des conserves d'huîtres où dedans, il y a plein d'intérieurs d'huîtres entassés dans une boîte de conserve qu'on ouvre et qu'on déverse dans un plat sur lequel on met du ketchup et du fromage avant de le passer au four. Ça a l'air absolument divin.
Oui, alors moi j'ai testé ça un jour, j'ai trouvé une boîte d'huîtres en supermarché en Afrique du Sud. Et par curiosité, vraiment, je me suis dit, allez, j'achète ça. Ça s'est resté 3 mois dans le placard parce que personne ne voulait y aller. Et avant de repartir, les copains ils m'ont dit, écoute Jeanne, il faut que tu manges tes huîtres. Et on a goûté, ça avait vraiment ce goût d'huile de lin très fort dans lesquelles elles étaient macérées et on perd totalement le goût. Donc je pense que ça va être plutôt le goût ketchup qui va ressortir de ce gratin.
Plutôt moyen moins quoi.
Merci beaucoup pour ce débat houleux. Je vois que Arnaud, tu es en train de déguster les huîtres. Est-ce qu'elles sont bonnes ?
Elles sont délicieuses. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas mangé et je suis conquis.
Tu te régales.
Un régal total.
Est-ce que je peux faire une expérience en direct ? Parce que je pense que j'ai pas mangé d'huître depuis l'âge de mes 8 ans.
Commence par le pied.
Commence par le pied, dit-elle. Est-ce qu'il reste des pieds ? Là, il y a un petit bout de pied. Là, il y a un pied. Ok.
Alors, Lucie va enlever le pied de l'huître.
Je gratouille le pied. Mais comment ça sent ?
Et nous allons avoir la réaction de son visage en direct.
Avec un couteau, mais un couteau, on en a pas. Va-t-elle aimer l'huître ? Ah, je découpe un petit bout de pied.
Lucie, est-ce que déjà avant de mettre l'huile dans ta bouche, tu as un a priori par rapport à ce
J'ai énormément d'a priori, je déteste ça, par principe. Attendez. Je récupère, parce qu'il est tombé sur la table, le petit bout de pied.
Elle a mis le bout de pied dans sa bouche.
Ça me ferait l'effet de manger de la mer, mais en version avec de l'agar-agar dedans.
Bienvenue, bienvenue dans la team huître. C'est ça qu'on adore.
C'est délicieux. Miam, miam.
Bon, bah super, voilà, tu es conquise, ça se voit sur ton visage. Mais merci Lucie pour ce magnifique débat et pour avoir goûté cette huître en direct. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après.
C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. Elles viennent de Bouzide, de Metz, de Marseillan. On en parle à Sète, à Balarouc, à Frontignan. À Béziers, à Narbonne et même à Montpellier. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. Vous, madame, vous, monsieur, petits enfants, approchez. Je vais vous raconter l'histoire des huîtres et des moules du bassin de Thon. Comment à la force du hasard un homme dans l'eau aida le coquillage, commande depuis sur votre table. Figure en face d'honneur, ce fameux fruit de mer. Approchez-vous à votre tour pour le déguster. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. Elles viennent de Bouzigues, de Metz, de Marseillan. On en parle à Sète, à Balarou, à Frontignan, à Béziers, à Narbonne et même à Montpellier. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. Qu'un piquet de ciment tombé des mains simplement d'un jeune maçon de notre temps moderne et fait la richesse de ces heureux parcs que l'on distingue depuis la rive. C'est une aventure pour tous ces coquillages, ces parcs plats qui sillonnent. Le bleu du bassin souvent nous le rappelle, elle ramène chaque saison des espoirs nouveaux. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. Elles viennent de Bouzigues, de Metz, de Marseillan. On en parle à Sète, à Balarou, à Frontignan, à Béziers, à Narbonne et même à Montpellier. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. Vous, madame, vous, monsieur, petits enfants, avouez-le. La fin de l'histoire, vous avez deviné, quand ensemble devant l'assiette. Quelle joie sans pareille, quand on vit d'une bouteille. Avec ses coquillages, notre âme à la même table. Comblé de bonheur, le plaisir on savoure. Si j'ai raison avec moi, vous allez chanter. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. Elles viennent de Bouzigues, de Metz, de Marseillan. On en parle à Sète, à Balarou, à Frontignan, à Béziers, à Narbonne et même à Montpellier. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'huître, c'est la fête de l'amour. Bam, 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 bada, bam, bada, 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 bada. Bam 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 b
Pour certains, c'est un aliment qui ne devrait pas exister, et pour d'autres, un objet de consommation en fête de famille. Au même titre que les papillotes, le cadeau Smartbox accrobranche et la guirlande clignotante. Souvent décrié, rarement écouté, l'huître a une place à part dans nos sociétés. Et pour mieux le comprendre, nous avons recueilli le témoignage de Michel. Michel, c'est l'aîné d'une famille d'huîtres très modeste, qui a voulu témoigner, mais de façon anonyme.
Grosso modo, une vie d'huître, c'est pas terrible. Tu grandis dans une cage où t'es serré comme des poulets. L'eau est à 30 degrés alors qu'on devrait être dans une eau à 20 degrés, quoi. Ensuite, tu passes 15 jours, parfois un mois, dans un supermarché, sur une étale glacée, l'horreur. Ça sent la crevette. Bon, nous, ok, on sent pas la rose, mais quand même. Le plus souvent, à côté d'un vendeur d'acras de morue qui met la musique antillaise à fond, nous, on danse pas le zouk. Ensuite, tu finis dans des maisons surchauffées, où y a un débat sur quel mâle alpha va venir nous défoncer la coquille avec son couteau à bourron. Quelle horreur. Des fois, il se blesse, ça c'est cool. Après, je vous passe une discussion avec l'oncle raciste qui t'explique, Sarko il devrait pas aller en prison, les juges rouges, blablabla. On s'en fout, nous. Et pour finir, on te défonce la tronche à coups de jus de citron et on te gobe sans te mâcher, direct dans le fond de l'oncle. Et à une fois sur deux, si t'es chanceuse, tu finis au milieu, dans l'estomac, avec une dinde, un marron glacé, plein de picoles. Pour te dire, les plus chanceuses entre nous, c'est celles qui sont vomies et qui peuvent peut-être repartir à la mer. Mais bon, ça c'est rare.
Merci Michel pour ce témoignage. Beaucoup d'huîtres vont être appréciées ce soir et ont conscience de cette réalité. Je suis Michel, tu es Michel, nous sommes Michel. Restons conscients et bonne dégustation à vous. Arnaud, j'ai l'impression que ça ne t'a pas du tout gêné. Tu es en train de déguster 8 sur 8 sur ton plateau. Tu as l'air heureux comme un bigorneau, tiens.
Et malheureusement, on arrive à la fin de la douzaine. On commence déjà à réfléchir à ce qui suit derrière.
À renouveler cette douzaine, carrément.
Il va falloir y retourner, je pense. Ouais.
Ah, ça, c'est beau. C'est sport, c'est sport.
Est-ce qu'il propose plusieurs plateaux différents ou on est sur un plateau unique
Alors, j'ai pas trop posé de questions. J'ai demandé directement des huîtres. Et ils m'ont donné des huîtres, quoi, ça c'était top. Mais peut-être qu'ils proposent un petit truc gratiné, quelque chose comme ça.
Faut leur demander, j'ai vu qu'il y avait des crêpes, donc on peut peut-être inventer des nouvelles choses, je sais pas.
Très peu pour moi, non. On est là pour l'huître. Hein.
Ouais. Non, mais
moi qui ai des crêpes à l'huître.
Mais c'est justement vrai. Ça que je propose, oui, c'est justement.
Pas,
oui.
C'est pas vrai. Et bien peut-être que j'aurai ma première expérience d'huître chaude ce soir.
Je te le souhaite.
Et je vous remercie vraiment de m'avoir éveillé à ce nouveau monde.
Merci Arnaud. Alors pour finir l'émission, on a des petits quiz. On a Lucas, tu vas nous faire un petit quiz, je crois, mais avant ça, on a un quiz. Un quiz Yodé, Yoda ou les deux. C'est parti. Alors, Yodé, donc vous avez bien compris tout ce qui concerne l'huître, vous allez me dire Yodé, Yoda, ce qui concerne Yoda ou les deux. Première question, peut-être utile en cas d'explosion nucléaire.
Les deux.
Les deux, exactement, parce que, Jeanne, tu le confirmes, mais je crois que l'iode est très bon en cas d'explosion nucléaire.
Ouais, un truc pour la thyroïde, là, c'est pas mal, ouais, je crois, de manger l'iode, mais je pense qu'il faudrait vraiment manger beaucoup, beaucoup d'huîtres.
Il vaut mieux Yoda, quoi, c'est ouais, ça que
je me tournerais plus vers Yoda.
Alors, est tout fripé et vit dans un environnement humide.
Les deux.
Les deux, exact. Peut vivre jusqu'à 800 ans.
Yoda.
Les deux.
Yoda, parce que l'huître vit jusqu'à 30 ans grand maximum. Tu confirmes, Jeanne ?
Il y a des expériences en cours. J'ai entendu des ostréiculteurs raconter qu'ils avaient des copains qui laissaient des huîtres un peu dans un coin de leur parc. Et je crois qu'ils en sont à 75 ans.
Ah ouais ?
Mais en fait, il n'y a pas vraiment de... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de vraie recherche là-dessus.
Mais comment ils font ? Parce que comment on sait qu'elles restent en vie sans les ouvrir ?
Alors, il peut y avoir des études faites après coup sur la coquille, puisque l'huître construit sa coquille au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc, en fonction de la taille de la coquille, on peut voir l'âge. Par exemple, là, les huîtres qu'on mange ce soir, elles ont entre 3 et 2, 3 ans. On compte les grandes cernes, voilà. C'est des grandes pousses. Alors, c'est pas si petit que les arbres. Hein, mais... Donc, sur des très grosses coquilles, on peut voir, compter. C'est beaucoup plus dur parce qu'après, la coquille a tendance à s'épaissir plutôt que s'agrandir. Mais... Voilà.
Merci, Jeanne, pour toutes ces explications. Alors, et salé dans la bouche ?
Les deux.
Les iodés.
J'ai pas osé le dire.
Eh ben, on ne sait pas, on ne sait pas. Personne n'a goûté Yoda, a priori, donc ce serait plutôt... Ah, Arnaud aurait quand même... Arnaud, apparemment, ce serait les deux. Selon
un
Arnaud,
invité serait... de choix.
Alors, une excellente réputation auprès des woke.
Les deux. Même ouais, si, je sais pas, les... Ouais, c'est les petits ours qui s'appellent les woke.
Ah.
Je sais pas si les huîtres, c'est un truc woke. Est-ce que les huîtres sont woke ?
Moi, je dirais plutôt oui. Je dirais plutôt les deux. Par contre, a une excellente réputation auprès des Wookiees.
Voilà.
Yoda.
Voilà, là, c'est plutôt Yoda. Et troublé par le côté obscur.
Les deux.
Est-ce que, Jeanne, on peut dire que l'huître est troublée par le côté obscur ?
Effectivement. Il y a des... une ombre qui vient très rapidement sur une huître, la fait se refermer. Donc
c'est côté obscur. C'est beau, c'est poétique, ouais, même.
C'est beau, c'est très beau. Peut avoir peur.
Les deux.
Bah, Yoda.
Yoda, il a pas peur.
C'est vrai.
Yoda, il a pas peur. Et l'huître a quand même pas un système nerveux complexe, mais elle peut quand même recevoir quelques émotions, des petites émotions.
Bah, je sais pas si on peut vraiment dire émotion, mais effectivement, elle peut sentir un prédateur arriver, se refermer, comme on disait, avec des ombres, tout ça. Donc des bruits trop forts aussi. Elle perçoit les bruits. Alors elle les entend pas vraiment parce qu'elle a pas d'oreilles, mais comme le bruit, c'est une onde qui se propage dans l'eau, elle peut aussi les percevoir. Ouais, avoir peur, après peur, ouais, voilà, les émotions, les sentiments chez l'huître, je sais pas trop.
Peut se défendre.
Les deux.
L'huître, alors quelle est la technique de défense de l'huître ? C'est un peu sa coquille finalement.
Ah bah, il y a que ça.
Il n'y a rien de plus. Quoi.
Mais en même temps, c'est assez fort. Par exemple, les huîtres adultes, elles ont pas trop de prédateurs. Elles ont moins de prédateurs que les petites huîtres qui ont une coquille très fragile et qui peut être percée à coups de bec, par exemple. Ouais, oui.
A déjà tué quelqu'un.
Yoda.
Ah, les deux, là, pour le coup.
Les deux.
Oui, l'énergie. Malheureusement, il y a eu des décès liés à l'huître, malheureusement. On y pense ce soir.
Il y en a qui sont infectés, non, genre, j'ai l'impression qu'à chaque Noël, après Noël, on nous dit, bon, bah, il y a une vague.
Ah oui, les huîtres.
Ah ben là, le pourcentage qu'il y en ait quelqu'un qui vomit, c'est quand même élevé ce soir.
Ouais. Voilà,
c'est peut-être, entre le vin blanc
toi, Arnaud,
et les huîtres.
C'est sans doute toi, Arnaud.
C'est sans doute toi, avec tes 24 huîtres englouties d'un coup. Et gluant et poilu.
Yoda.
C'est vrai que l'huître n'est pas très poilu.
Il y a des petits cils au bord du manteau, alors est-ce que, voilà, bon, des cils, des poils.
Est-ce que tu dirais que Yoda est gluant ?
Oui, il a une petite texture un peu gluante.
Ah d'accord.
Non ?
Ah, toi qui le connais bien, Arnaud.
Avant tout salé. Hein.
Il est surtout salé, ce Lord. A du mal à se déplacer.
Les deux. Yoda a une canne et les huîtres, j'imagine qu'elles font pas beaucoup de kilomètres dans leur vie.
Exactement. Les huîtres, comment se déplacent-elles, Jeanne ?
Alors les huîtres, elles se déplacent à l'état larvaire. En fait, une larve d'huître, ça fait partie du plancton, du zooplancton, donc des organismes qui se laissent porter par le courant. Donc là, elle va pouvoir beaucoup se déplacer. Mais après, une fois qu'elle est adulte, elle se déplace plus. Elle est sessile, elle est accrochée à son rocher ou à son endroit, quoi.
Elle attend qu'un humain vienne la chercher, peut-être.
Alors, soit c'est les huîtres sauvages qu'on va récupérer sur les rochers, et donc là, on les décroche. Après, les huîtres d'élevage, elles sont dans des poches, elles ne sont pas forcément accrochées, justement pour avoir cette belle forme qu'on aime bien dans nos plateaux.
Décidément, tu es vraiment une experte huître, hein, c'est incroyable, toutes ces informations. Alors, attention, dernière question, Yoda ou les deux soignent la gueule de bois ?
Les deux.
L'huître. Je conteste, hein, Yoda est très mauvais pour ça.
Voilà, Arnaud confirme, Yoda ne soigne malheureusement pas la gueule de bois.
Il l'empire.
Uniquement l'huître. Alors, est-ce que des gens confirment ici ? Moi, j'ai jamais mangé d'huître un lendemain. J'ai plutôt mangé d'huître le soir même. Et ça m'a pas forcément soigné du lendemain.
Ça me semble être la pire chose à manger en gueule de bois. De bois.
Pas d'accord. Non, mais l'iode, c'est très, très revitalisant, je pense.
Jeanne ?
L'huître est très riche en minéraux, donc ça peut-être aider. Et puis, la gueule de bois, c'est rien d'autre qu'une déshydratation, donc de boire de l'eau salée, je sais pas.
Et oui, huître tu mangeras, iode tu auras, et grosse cuite tu soigneras. Ce sont les vrais mots de Maître Yoda. Merci à lui et merci à vous d'avoir répondu brillamment à ce quiz. Alors Lucas, tu avais un petit... C'est quoi que tu nous as préparé? Parce que j'ai pas bien compris, tu as un petit quiz avec des jeux de mots sur l'huître, c'est ça?
Ouais, un quiz dont j'ai encore un peu honte, comme souvent dans cette émission. Donc c'est juste des questions, puis vous allez me répondre la question. La réponse est toujours en rapport avec...
L'huître.
Ouah, putain, vous êtes hyper bon. C'est quoi une huître déguisée en moule? Par exemple, hier, il y avait l'occasion parfaite.
Allo huître.
Allo huître, voilà, c'est ça. Donc on est sur ce...
Ah, c'est ce niveau-là. Ce, c'est bien, ce niveau. C'est bien pour une première question.
On parlait d'huître chaude. Une huître bien coulante, c'est une...
Gastro-intercuite.
Non, une mi-cuître. Un peu sucrée.
Waouh.
Ouais, c'est sur ce niveau-là. Une huître qui prend beaucoup de plaisir, qui a un orgasme, on dit qu'elle...
Elle jouitre.
Ouais, merci. Une huître qui n'est plus mascu et qui accepte finalement de relationner avec une moule, on dit qu'elle est...
Déconstruite.
Pas mal. Que devient une moule qui se convertit?
Vas-y.
Une jésuitre.
Waouh.
Ouais. Et où partent les huîtres musulmanes pour le pèlerinage?
En Arabie Saoudite d'huîtres.
Mais quelle est la capitale de l'Arabie Saoudite d'huîtres? Abu Dhabi d'huîtres.
Oh oui, c'est pas du tout la capitale de l'Arabie Saoudite.
Tu as raison, finalement, Abu Dhabi d'huîtres, c'était la capitale des Émirats Arabes.
Une huître.
Oh là là, ouais, merci. Alors là, je regrette vraiment pas de t'avoir demandé de faire un quiz, Lucas, ça me ravit. Merci beaucoup, Lucas. Je crois, Lucie, t'en avais peut-être une ou deux.
Ah, j'en ai une autre.
Vas-y, beaucoup aussi. Surtout pas.
Qu'est-ce que c'est qu'une huître qui fait du chien de traîneau?
Un inuitre.
Oh, pas mal. Ah là, bravo, Yann.
J'en ai une. Dans un parc d'attractions, quand on va avoir des sensations iodées, qu'est-ce qu'on fait? Un super huître. Le grand huître.
Je sais plus quoi en penser. Désolé, Jeanne, je pensais pas que ça allait tourner comme ça. Et pour finir, on a un petit blind test. Vous êtes chaud? Blind test iodé, blind test de la mer. C'est parti, on va peut-être faire deux équipes. Lucas, Jeanne, Louise. Et puis Arnaud, Lucie, et redis-moi ton prénom.
Hugues.
C'est parti.
Coquillage et crustacé.
Coquillage et crustacé. Bravo, Louise.
Sur la plage abandonnée.
C'est mignon, quoi.
Coquillage et crustacé.
Ok.
La mer.
La mer, bravo, ah, Lucie.
Deux. Est-ce que tu peux dire les artistes à chaque fois?
Charles Trenet.
C'est Charles Trenet.
Alors, Coquillage et Crustacé, c'était Brigitte Bardot, bien sûr.
Le long du golfe clair, a des reflets.
On laisse un peu parce qu'on apprécie.
La mer.
On mange une petite huître. Arnaud est à sa troisième douzaine.
La pluie.
C'est quatrième ou deuxième.
Ah, face à la mer.
Ah ouais.
Face à la mer, Calogero.
Calo.
On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château, quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou, comme Cosette pour Hugo. Étant treillis de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO.
Ok, on continue. Que vous pouvez retrouver le chanteur.
Souviens-toi de notre creek.
C'est Delon, on dirait Delon.
Juste moi.
Quelqu'un qui vient du Nord.
Quelqu'un. Celui qui chante les corons.
Oui.
Ah, je n'ai pas lu son nom.
Guichard.
Pierre Bachelet.
Ah ouais.
L'Atlantique.
Ce vent que j'entends. Le vent.
J'aimerais tellement te rejoindre en un claquement de doigts. Tenir tes mains sur le bord de la plage. Si un jour tu te souviens que vaguement moi, les bisous salés et les
coquilles.
C'est ça?
T'as dit quoi?
La plage.
Non, pas du tout. Ça s'appelle Bisous salés et coquillages. Et c'est Odetto, Leta et Soyuz. Bon, ils sont pas très connus aussi.
T'es trop jeune pour nous, Yann.
C'est des copains. Allez, un petit dernier. Bon, là, je pense que ça va aller très vite. Vous êtes prêts?
C'est l'amour à la plage, Niagara.
Niagara, bravo, Louise. Niagara, alors j'ai pas du tout compté les points, mais j'ai envie de donner quand même le point à Arnaud, parce que tu n'as pas démérité à manger toutes ces huîtres.
Le petit
tu
préféré.
Tu es encore debout.
On est super bien reçu, j'adore.
Moi, en attendant, j'ai une autre blague. C'est quoi l'actrice préférée des huîtres? Jodie Foster.
Et c'est sur cette incroyable blague qui vraiment fait l'unanimité autour du plateau qu'on se rapproche de la fin de l'émission. Donc merci beaucoup à Léna et Anaïs d'avoir orchestré toute cette petite joyeuserie autour de l'huître. Merci à la poule à facettes de nous accueillir. Merci à Paul qui s'occupe du son. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission Dans l'ombre. Pierre, notre ami Pierre qui a été très sympathique pour les Bigorneaux. Cédric, Sabrina et l'émission Yodé, c'est fini. Vous allez pouvoir écouter Plaisir Partagé sur les ondes de Radio Saint-Fé 94.2, bien sûr, le quatrième mardi de chaque mois à 18h. Et en podcast sur le site de Radio Saint-Ferréol. À bientôt.
Ciao.